Eh bien, bonjour à tous, bienvenue mon Tom-Tom. Ça va mon Tom-Tom?
Eh bien, écoute, pas trop mal, pas trop mal. Écoute, on essaye de faire contre mauvaise fortune bon cœur. Il fait pas beau, donc on s'habitue à la pluie.
On s'habitue à la pluie et aujourd'hui on est dans l'invité numéro 5. Alors c'est un petit peu comme le parfum Chanel, mais cette fois-ci on a un truc bien mieux, c'est Arnaud Manzanini. Salut Arnaud.
Hello à tous.
Alors Arnaud, merci d'être avec nous. Aujourd'hui, dans ce podcast, alors on parlait de Chanel numéro 5, tu as dû faire bien plus de 5 fois le tour du monde avec ton vélo, je pense.
Je n'ai pas cumulé les kilomètres, mais ouais, on doit en être pas loin, je pense. Ouais, on doit en être pas loin.
Alors aujourd'hui, je peux dire quand même que Thomas, on a la chance d'avoir un ultra-trailer et un ultra-cycliste. On peut ultra-cycliste, ultra-spécialiste de l'ultra-cycling, comme on dit, Arnaud.
Oui, spécialiste de l'ultra-distance, ouais, on peut dire ça, ouais.
On pourrait dire un spécialiste du périnée en cuir.
Ouais, aussi, ouais. Ouais, pourquoi pas, ouais.
Avoir un sportif de l'extrême dans notre podcast, c'est la famille de l'endurance, c'est la famille de la borne. Alors Arnaud, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton parcours? Je crois que dans les années 90, tu étais un très bon cycliste amateur. Et puis nous, voilà, la question qu'on se posait avec Thomas, c'était comment tu as fait pour en venir à réaliser des défis? Et on va les énumérer parce qu'ils sont assez nombreux.
Qu'est-ce qui s'est
Bah,
passé? Qu'est-ce qui s'est
ouais,
donc
bah ça,
passé?
bah il faut forcément, quand tu vas sur de l'ultra, il faut forcément qu'il se passe quelque chose. Mais oui, j'étais effectivement dans les années 90, alors bon coureur amateur, je n'irai pas jusque-là, mais j'étais en élite, quoi. Voilà, j'étais au niveau élite dans des équipes amateurs. C'était au tout début où moi j'ai arrêté, en fait, où ça se structurait, en fait. Les divisions nationales commencent à se structurer en France. Et puis, bah, je suis rentré dans la vie active. Et je suis revenu, j'ai pas touché les vélos pendant 8 ans. Je me suis vraiment concentré sur mes business. Et bah, après, je suis remonté sur le vélo. Et puis les choses se sont remises en place, quelques victoires. Et j'en avais un petit peu marre de tourner avec les mêmes coureurs autour d'un clocher tous les dimanches pour gagner un bouquet de fleurs et un saucisson. Et je me suis dit, bon, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Et je suis tombé totalement par hasard. C'est en 2010, totalement sur cette épreuve aux États-Unis, qui est la Race Across America, qui a lieu en ce moment même. Et d'ailleurs, une petite news, c'est qu'au bout de 6 jours d'épreuve, c'est une femme qui est en tête. C'est une femme qui
Non.
lead la Race Across America. Depuis 6 jours, elle est devant. C'est une Canadienne.
Est-ce que ça
Donc,
s'explique là?
et donc c'est.
Qu'une femme soit
Alors,
devant
en
plusieurs
ultra, moi,
petits.
en ultra, je ne suis pas du tout surpris. Je suis pas du tout surpris. Si elle a de l'expérience, bien entraînée et bien entourée, en ultra distance, je ne suis pas du tout surpris qu'une femme aille faire ces performances-là. Et donc là, ils sont à mi-course aux États-Unis actuellement. Ils sont à mi-course, ils sont dans le Kansas. Et à mi-course, elle est en tête de la Race Across America. Donc c'est juste dingue. Et donc je suis tombé il y a 10 ans sur cette épreuve et je me suis dit, je veux un jour faire cette course. Et donc bah, j'ai pris des contacts autour de moi et à ce moment-là, je n'avais jamais fait plus de 180 km dans ma vie. J'avais jamais fait 200 bornes. Et donc bon, les personnes qui à ce moment-là, il y avait seulement 4 Français qui avaient fait la course. 4 Français en solo. Donc j'avais pas aucun retour d'expérience parce que j'avais pas suffisamment de Français qui l'avaient fait pour vraiment me faire un avis. Et puis bah, je me suis lancé. La meilleure manière de prendre de l'expérience, c'était de la faire. Et donc ce que j'ai fait en 2013, où je l'ai fait en équipe de deux, et j'ai pris une grande claque dans ma gueule, hein, très clairement. J'ai découvert ce qu'était le cyclisme ultra-distance, et surtout j'ai pris conscience qu'en France, on était bien loin de s'imaginer de ce qui se passait là-bas, puisque les moyens que l'on avait, nous, Français, au départ d'une épreuve comme ça, mais on était petit petit par
Les cadets.
rapport
Ouais.
à mais il faut voir les moyens financiers qui sont mis en place là-bas. C'est impressionnant. C'est-à-dire que là-bas, les entreprises misent sur la Race Across America pour véhiculer des valeurs d'entreprise derrière. Donc
Ah oui,
ils y
d'accord.
vont en équipe de 8, ils y vont en équipe de 8 et derrière, bah, ils rebondissent pendant 1 an, 2 ans, 5 ans sur soit le
OK.
résultat, soit ce qu'en est ressorti au niveau du team building. Et donc ben bah, voilà, j'ai mis le doigt dedans. J'ai commencé par l'épreuve la plus mythique, alors que beaucoup d'autres se disent un jour je ferai la Race Across America, mais je vais déjà commencer par une petite épreuve d'ultra, puis une deuxième. Moi j'ai directement commencé par le top et puis derrière, bah, voilà, je pensais que c'était. Quand j'étais en 2015 en solo, je pensais que c'était l'aboutissement de quelque chose et que derrière, j'allais passer à autre chose et mettre le vélo de côté. Et en fait, ça a été le début d'un nouveau chapitre de ma vie, très clairement.
Et Thomas,
Oui, dis-moi.
toi, c'est arrivé quand? Si, parce que clairement, je me dis, tu vois, Arnaud, il s'est mis à l'ultra Et direct, il a fait la Race Cross America. Toi, c'était plus progressif, en fait.
Non, mais en fait, en trail, alors c'est marrant parce que moi, je connais Arnaud parce que il y a longtemps, il avait fait un podcast avec Kylian Jornet. Donc, Kylian Jornet, c'est notre dieu à tous. Du coup, j'avais bien aimé parce que finalement, bon, Kylian, il n'est pas que bon en course à pied. Il est quand même ultra, ultra bon pour prendre du recul sur sa pratique, pour prendre du recul sur, une population finalement trailistique. Et j'ai trouvé ça ultra intéressant. Et du coup, j'ai commencé un petit peu à suivre les péripéties des uns et des autres. Donc, celle de Kylian, bon, bah, il est devenu papa, il se calme, mais en fait, pas tant que ça. et puis Arnaud, voilà, j'ai commencé un petit peu à m'intéresser au sujet. Et j'ai vu que finalement, en fait, tu avais. Est-ce qu'il y a un autre point commun avec un grand nom du trail en US, justement, avec Scott Jurek, que tu connais très probablement, puisque finalement, il a écrit un livre qui s'appelait Hit and Run, et que j'ai cru comprendre que tu étais un mode végétalien, végétarien. Tu peux nous en dire un peu plus? Et pourquoi, finalement, quel est l'impact sur l'ultra-endurance? Parce que finalement, beaucoup de gens, surtout aux États-Unis, où le culte de la viande est quand même assez puissant, et que finalement on s'est rendu compte que pas tant que ça, et que sur l'ultra-endurance, finalement la protéine n'était pas, tout du moins animale, n'était pas essentielle. Donc tu peux nous en dire plus?
Bien sûr, avec grand plaisir. Même ça, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. En fait, j'ai pris conscience de l'impact et l'importance de l'alimentation sur le corps humain en faisant de l'ultra-distance. Oui. C'est-à-dire, quand j'ai découvert l'ultra en 2013 sur ma première race Cross America, je n'avais aucun plan d'alimentation, aucun plan d'hydratation. Et on pensait qu'avec des gels, des barres de céréales et un coca en faisant d'autres pauses, ça allait bien se passer. Et en fait, au bout de 36-48 heures de course, alors les 24 premières heures, on était en tête. Et après, on pleurait sur nos vélos parce qu'on n'avait plus du tout de réserve, en fait. Et à la fin de cette course, je me suis dit, bon, si j'y retourne en 2015 en solo, il faut que je connaisse précisément mon mode d'alimentation. Et donc, j'ai commencé à m'intéresser à ce que je mangeais, comment je le cuisinais, quel impact ça avait sur mon corps. Et la bascule s'est faite à partir de 2015 où je me suis rendu compte qu'on pouvait manger beaucoup mieux. Donc, tu t'intéresses à ce que tu cuisines. Et tout doucement, j'ai glissé. Alors, je m'alimente beaucoup moins sur le vélo qu'avant. Avant, je ne faisais que de manger. Même si en ultra, tu es régulièrement la main à la poche, c'est des plus petites quantités. Tu ne manges pas des quantités aussi importantes. Donc, c'est régulièrement, mais de plus petites quantités. Et puis, effectivement, il y a un an et demi, j'ai discuté de basculer complètement végétalien, effectivement. C'est pas vegan parce que je suis uniquement dans mon mode d'alimentation vegan. Donc, ça s'appelle effectivement être végétalien. Et je me sens énorme. Alors déjà, j'ai l'impression d'avoir dégonflé. Je me sens avec de l'énergie juste incroyable. Et surtout, j'ai appris à connaître quel aliment avait quel impact sur mon esprit, mon énergie. Ouais, et ça, c'est bluffant. Ça, c'est vraiment
bluffant. Une sorte de micronutrition.
Ouais, c'est un petit peu ça. C'est un petit peu ça. C'est-à-dire que tu sais, quand tu prends un aliment, tu sais précisément quel impact il va avoir sur ton corps et le bien-être qu'il procure. Donc ça, c'est super intéressant. Donc oui, je connais les personnes que tu as citées, Scott Jurek, parce que j'ai lu son bouquin, bien évidemment, et ce qu'il y a dedans, je suis pas surpris, même si lui, les Américains poussent quand même vachement, vachement loin le truc quand ils se lancent dans ce... Mais aussi parce qu'ils ont le support. C'est-à-dire qu'aux États-Unis notamment, et notamment en Californie, c'est assez simple d'être végétalien ou vegan. C'est parce que tu trouves les structures qui sont équipées pour. En France, on en est bien loin.
C'est tabou.
Tu vas manger.
C'est presque tabou.
C'est presque tabou. C'est presque tabou. Je discutais avec une grande coach santé. Quand je dis grande, parce qu'elle est très très connue. Alors elle est grande aussi par la taille, mais elle est très connue et très très suivie sur les réseaux sociaux. Qui est Lucille Woodward, qui est très connue. Donc je la sors en podcast la semaine prochaine et je discutais d'elle ce sujet-là. Et elle me disait qu'en fait, les grands sportifs n'osent pas le dire. Il y en a plein qui sont véganes, mais ils n'osent pas le dire parce que sur les réseaux, ils se font assommer en disant « tu seras plus performant ». Donc, c'est conflictuel encore en France. C'est conflictuel de le dire. Je trouve que moi, ça a apporté beaucoup à mon hygiène de vie, très clairement.
Oui, mais je te rejoins sur l'aspect dérangeant, finalement, dérangement du point de vue sociétal. Effectivement, en France, on est quand même le pays de la gastronomie. C'est presque un peu malvenu de se dire « bah oui, moi, je suis pas trop viandard ». Mais en gros, quand tu t'inscris dans une démarche de performance, alors performance, qu'elle soit soit de performance, c'est complètement personnel. Ouais. Et puis la performance, encore une fois… on met le curseur là où on veut le mettre.
Exactement.
Et tant qu'on n'a pas trop touché du doigt cette volonté d'être performant sur ultra, on se rend moins compte de du caractère essentiel finalement de ce qu'on ingère et de l'impact finalement que ça pourrait avoir sur de l'aliment qu'il pourrait avoir sur notre performance. Après, c'est sûr que
une fois que tu as compris ça, ça change tout derrière. Ça change toute ta relation que tu as avec l'alimentation.
Ouais. Clairement, clairement. Après, voilà, mais je te rejoins sur la capacité à pouvoir être beaucoup plus simple le vegan aux États-Unis qu'en France. Clairement. Ouais. Alors pour la petite histoire, juste pour info quand même, le vegan s'interdit une selle avec du cuir.
C'est ça, exactement. C'est pour ça que je te dis que je suis végétalien. Je m'arrête à l'alimentation.
C'est bien compliqué. Et tu sais, on parlait tout à l'heure de la Race Across America. Tu t'es dit, bon, bah, allez direct, moi je m'attaque par le monument de l'ultra. Mais après, tu as eu d'autres idées de défis. Et là, je pèse mes mots tellement je trouve ça hallucinant. Le tour du monde à vélo, sans assistance en moins de 123 jours. Alors là, est-ce que tu vois un psy? Comment ça se passe? Parce que
non, en fait, c'était l'objectif. Après, c'est vrai que le Covid ne serait pas arrivé. Je serais à ce moment même, parce que j'avais prévu un départ en avril. Mais bon, voilà, comme beaucoup de personnes, il faut savoir pivoter, il faut savoir s'adapter. Et ça a généré en même temps le fait de ne pas aller sur ce type de projet, en tout cas de ne pas avoir la possibilité de le faire. Ça a généré un Tour de France l'année passée, 5000 km le long des frontières et du littoral, qui était juste magnifique. Ouais. Parce que j'avais plus roulé en Californie qu'en Bretagne. Donc, ça m'a permis de découvrir des régions.
Et, la différence, c'est quoi entre les deux? C'est le soleil?
Alors, non, mais tu sais qu'en France, en fait, on a les mêmes paysages. Moi, maintenant que j'ai roulé dans pas mal de régions en France, à plusieurs fois, je me suis fait cette réflexion en me disant « Ah, mais ça ressemble… » au Colorado, ah mais ça ressemble au Kansas. Mais en fait, non, c'est juste que nous, on a un concentré. Alors certes, ce n'est pas les mêmes panoramas. Ce n'est pas les mêmes panoramas, parce que là-bas, les panoramas, un paysage, c'est étendu, ça ne tient pas dans l'appareil photo, tu vois, très clairement, ça ne tient pas dans ton iPhone. Nous, on a les mêmes choses, mais très concentrés, en fait.
Mais beaucoup moins long. C'est pareil, mais beaucoup moins long.
Ouais, et puis, la différence, c'est cette ligne jaune au milieu de la route, hein, très clairement. Sinon, il n'y a pas grand-chose d'autre. Ouais. Et puis, surtout, ça a généré aussi la traversée de la Laponie suédoise cet hiver, qui était juste aussi, par moins 45, un super moment à vivre, très clairement.
On a vu que tu as fait, enfin, on a regardé avec TomTom les vidéos, les photos que tu as réalisées, et on a suivi ça, bien sûr, avec attention. Moi, tu sais, on m'a toujours dit que les sensations par des températures extrêmes comme ça étaient les mêmes qu'en plein désert. Est-ce que tu
confirmes
ça? Est-ce que…
Ouais. Je confirme, c'est-à-dire que quand j'ai fait effectivement les États-Unis, j'ai connu 50 degrés dans le désert. Donc, je sais ce que c'est que de rouler par 50 degrés dans le désert. Et j'ai connu les moins 45 en Laponie suédoise. Et effectivement, ton esprit se met en mode… alors, je ne sais pas si on peut dire un mot de survie, mais en tout cas, se met en instant présent. C'est-à-dire que tu n'es plus du tout dans l'intellectualisation de ce que tu vis. Tu vois, tu te dis pas « Oh, le paysage est magnifique. Oh, c'est beau. Joli. Oh, je suis content d'être là. » Non, là, tu ne penses même pas à ça. Tu es vraiment dans l'instant présent, c'est-à-dire que tu écoutes tous les signaux de ton corps. Est-ce que j'ai froid aux mains? Est-ce que j'ai soif? Est-ce que je sens encore mes doigts de pied? Enfin, tu es vraiment dans l'écoute de ton corps, mais au maximum. Et ton champ de vision se rétrécit complètement. Moi, c'est des sensations que j'ai eues. Hein. C'est que ton champ de vision se rétrécit complètement pour ne voir que ce qu'il y a vraiment face à toi. Voilà. Donc, c'est des sensations très particulières, mais je confirme, c'est commun au désert et au grand froid. Pour moi, c'est
toi, Thomas, tu as déjà…
C'est des sensations que je peux complètement objectiver parce que c'est effectivement sur l'ultra. Alors, je pense qu'il n'y a pas forcément… Effectivement, c'est quand même des sensations d'ultra au bout de 15 heures, tu vois. C'est des trucs qu'on a… Ce que dit Arnaud, c'est intéressant parce que c'est vraiment de l'ancrage dans le moment présent. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand tu restes en difficulté, que tu sors énormément de ta zone de confort, tu reviens à des choses extrêmement terre à terre et en gros tu vis l'instant présent parce que ça fait vraiment partie de toi. En fait, tu vis vraiment en synergie, en harmonie avec ce que tu es en train de vivre, et ça, c'est important. Et je pense que ça fait partie des capacités, enfin tout du moins des grandes pierres pour réussir sur ultra et être performant, tout du moins aller le plus loin possible sur ultra. Vivre l'instant présent, être dans l'ancrage permanent. Et ça, peut-être abstraction faite finalement des conditions climatiques externes qui, elles, je peux peut-être que finalement exacerbe cette impression-là, mais je suis d'accord avec toi Arnaud sur l'aspect plus c'est compliqué finalement moins on pense à de choses superflues et plus on se dit ouais putain mais il va falloir quand même que je me sorte les doigts et que je me focus sur un truc très très précis.
Et pour l'alimentation,
c'est un peu du lâcher prise aussi. Hein. C'est à un moment donné, t'as pas le choix que d'accepter les éléments et dans la situation dans laquelle tu es. Hein.
Cette expérience en fait te sert dans ta vie de tous les jours alors.
Ah complètement. Bah tu prends une confiance en toi, beaucoup moins de stress au quotidien. Tu sais que tu es capable d'affronter différentes situations. Que tu trouveras la solution, même si tu ne connais pas la solution avant, tu sais que tu trouveras la solution. Donc oui, et je pense aussi que c'est ce qu'il faut faire, c'est-à-dire que les gens qui font ce type d'aventure, il ne faut pas qu'ils en ressortent juste pour le plaisir de l'avoir fait. Il faut l'utiliser dans sa vie de tous les jours. Il faut vraiment ressortir, il faut que ça ait un impact. Si tu fais les choses pour que ça n'ait pas d'impact dans ta vie, à ce moment-là, c'est très égoïste. Tu vois ce que je veux dire ? Il faut vraiment que tu t'en sers de ce que tu as fait dans ta vie de tous les jours.
Tu parles de te servir de ton expérience, sa transition toute trouvée sur la Race Cross France. Finalement, tu as fait le Race Cross américain, tu as dit tiens, pourquoi ?
Exactement. Ce
concept chez nous.
Je me suis dit, c'est surtout, c'est pas normal que nous, pays du Tour de France, on ne connaisse pas cette discipline. Alors je me fais à chaque fois attaquer, je me fais à chaque fois un petit peu attaquer quand je dis on ne connaisse pas. Les gens me disent, non, on sait ce que c'est que faire du vélo, on a un Paris-Brest-Paris, mais ça n'a rien à voir. Je pense que les gens vont le découvrir de plus en plus parce que la course va être de plus en plus médiatisée, mais ça n'a rien à voir. Je dirais même plus, c'est à l'opposé. Donc voilà, oui, j'ai effectivement, en 2014, je me suis dit, il faut absolument que je l'importe en France. Je ne savais pas quand, je ne savais pas comment, mais en tout cas, je savais que j'allais le faire. Et puis, c'est parti en 2018, avec 42 personnes de départ. Et puis, 4 ans plus tard, 3 ans plus tard même, on est 800. Voilà, on est 800.
Comment t'expliques ça ? Enfin, on en parlait l'autre jour avec TomTom, parce qu'avec TomTom, on est voisins quand même. Comment on passe de 40 personnes de gens qui ne connaissaient pas l'ultra à aujourd'hui 800 personnes et tu sais que l'année prochaine, tu auras le double ?
Beaucoup me demandent si c'est l'effet Covid. Alors peut-être, mais je ne pense pas que ce soit la seule composante qui fait qu'on fait x4,5 comme ça en un an. Je pense qu'il y a une très très bonne connaissance de la discipline, c'est-à-dire que j'ai la chance de très bien m'entendre avec les Américains et j'ai notamment passé une demi-journée avec les gens qui gèrent la Race Cross America il y a 2 ans où ils m'ont vraiment tout expliqué sur comment est née la discipline, comment elle a évolué, qu'est-ce qui fait que ça n'a pas marché aussi vite, qu'est-ce qui fait que ça marche. Bref, j'ai la chance de pouvoir connaître l'histoire de la discipline. Ouais, j'ai la chance de pouvoir connaître l'histoire de la discipline et j'ai aussi pratiqué. Donc, je connais les difficultés, la préparation. Voilà. Donc, il y a ça. Il y a aussi y a un gros travail qui est fait derrière. Il y a aussi la beauté du territoire français qui fait rêver. Je pense que c'est une résultante de plein de composantes. Et puis, les gens ont aussi envie de se tester sur de l'ultra. Il n'y a pas que la Race Cross France qui connaît une augmentation de ses inscrits. C'est-à-dire que plein de disciplines d'ultra connaissent une explosion. Mais je pense que qu'est-ce qui fait aussi la différence, c'est que j'ai eu, on va dire, la bonne idée de échanger avec d'autres disciplines. C'est-à-dire que même au contraire, je ne me suis pas entouré et je n'ai pas été prendre des renseignements sur des gens qui faisaient du vélo. J'ai été prendre des conseils sur l'UTMB. Je me suis mis en contact avec l'UTMB, je me suis mis en contact avec l'Otilo Swimrun, avec qui je m'entends très bien. Je me suis mis en contact avec d'autres disciplines très exigeantes et j'ai essayé, avec le Vendée Globe, et j'ai essayé d'amener dans la Race Cross France des petites astuces qui fonctionnaient dans ces disciplines-là.
Dans chaque discipline, d'accord.
Exactement. Et voilà, je pense que c'est aussi ce qui fait la marque de fabrique, c'est que je n'ai pas pris conseil auprès de cyclistes. J'ai été prendre conseil dans d'autres disciplines, d'ultra, de long, qui fonctionnaient, et j'essaye d'importer des petites astuces à chaque fois, ou des petites subtilités de leur discipline dans notre discipline.
Moi, j'ai pu voir, notamment sur ton briefing de la semaine dernière, parce que j'ai la chance d'être au départ, moi, que c'était hyper carré, structuré. Enfin, j'ai rarement vu une épreuve cycliste amateur aussi carré, structuré avec autant de questions et d'harcèlement de participants sur est-ce que je mets une lumière à l'avant, est-ce que j'en mets une à l'arrière. En fait, ils sont inquiets, tous inquiets, moi le premier. Ouais. C'est, voilà, c'est, en fait, tu es un peu le pas d'épreuve parce que tu es l'importateur. Et même si Thomas, pour moi, est un très bon conseil, et ben là, tu vois, il y a quand même une certaine inconnue, quoi.
Bah, c'est normal, hein, partir comme ça sur 2500 bornes. Je pense qu'il y a un ancien coureur professionnel qui l'a fait l'année passée, qui est Eric Leblacher. Bon, il a franchi la ligne, il était en larmes, quoi, parce qu'il savait qu'il était différent et qu'il avait vécu quelque chose qui était. Bah, tu vis quelque chose d'intense, hein, tu te mets complètement à nu. Quand tu fais cette discipline, tu lâches prise totalement, tu veux connaître, tu verras. C'est quelque chose que tu peux t'imaginer ce que c'est, mais quand tu l'as vécu, c'est encore bien plus difficile que ce que tu peux t'imaginer. Mais par contre, c'est ce qui fait que tu as envie de revenir, parce que tu sais que tu vas pouvoir trouver les réponses, tu sais que ça t'apporte dans ta vie de tous les jours. Donc voilà. Et aujourd'hui, on a beaucoup de participants qui reviennent cette année, d'anciens participants. On a un Allemand notamment qui revient pour la quatrième fois. Il était présent sur toutes les éditions. Et puis, on a 25% de triathlètes cette année qui sont là et 25% de trailers qui sont là cette année aussi. Donc, ça va être intéressant de voir ces nouvelles disciplines qui arrive sur le cyclisme ultra-distance.
Ce qui est rigolo, moi j'ai l'impression que l'ultra-trail et l'ultra-cycling, une fois qu'on met le doigt dedans, Thomas, c'est plié, quoi.
Moi, je pense que c'est... Ça procure les mêmes sensations, en fait. Moi, avec le podcast Ultra Talk, hein, j'ai pu interviewer des grands du trail, voilà. Et en fait, on pense tous, je pense, qu'il n'y a que dans notre discipline que ça procure ces choses-là. C'est faux. Pour moi, c'est faux. C'est-à-dire que tu vis la même chose dans le trail, tu vis la même chose dans le swimrun. Du moment que le sport est extrême, ça te procure les mêmes sensations, quel que soit le support, selon moi.
Exactement. Ouais, mais tu vois, par exemple, Thomas finit ses courses. Moi, je l'ai vu, hein. Il marchait plus. C'était un robot. Et non, mais c'est bon, j'arrête. Et puis 15 jours plus tard, il reprend les baskets et c'est parti. Enfin, c'est Tom, ouais.
Ouais. Après, voilà. Ce que dit Arnaud, c'est complètement juste. C'est-à-dire qu'à un moment donné, peu importe, en fait, c'est-à-dire que c'est l'investissement que tu mets dans rejoindre la ligne d'arrivée, peu importe que ça soit en paddle, que ce soit en vélo, du moment où c'est finalement ça te pousse dans tes retranchements et dans une espèce de réflexion autour de qu'est-ce que je vais faire pour mettre en place des choses, alors en amont et encore plus pendant pour réussir à franchir cette ligne d'arrivée. Et finalement, plus c'est long, plus ce processus il est abouti, et finalement, à l'arrivée, ça en exacerbe finalement les sensations et les sentiments. Donc, clairement, que ce soit en course à pied, alors la course à pied est ultra plus connue parce que finalement, elle a un peu plus d'histoire, parce que ce qui est marrant, c'est que ta genèse autour de la construction de la RAF, finalement, c'est exactement la même genèse que ce qu'a pu avoir Gilles Bertrand quand il a importé les Templiers en France. Finalement, lui, il est allé aux États-Unis, il a découvert la course, le trail en mode Western States, Leadville, ainsi de suite. Et puis il a dit, non, mais c'est hallucinant que ça, ça n'existe pas en France. Puis finalement, il l'a importé avec finalement des petites adaptations à la française qui a fait exploser en 95. Le premier trail était né et en métropole, et que finalement, après, il en a fait. Voilà. Et donc, vous, finalement, l'ultra cycling arrive avec, entre guillemets, je dirais 10 ans de retard ou 20 ans de retard sur le train.
20 ans. 20 c'est ans, exactement ouais. C'est exactement
voilà,
ça.
20 ans. Mais c'est sûr qu'à mon avis, ça observe les mêmes codes. Et les codes, ils sont là parce que peut-être qu'à un moment donné, la société recherche aussi ça. Alors, Covid ou pas Covid, je pense qu'à un moment donné, les gens, on est dans une société où finalement, on veut quand même sans cesse se prouver quelque chose et en ressortir quelque chose. Qu'est-ce que j'ai dans mes... En fait, qu'est-ce que j'ai dans ma moelle et qu'est-ce que je suis capable d'en ressortir dans mon quotidien. Et parce qu'on le vit mieux, finalement, une fois qu'on a franchi la ligne d'arrivée, parce qu'on a répondu à certaines questions.
Ouais, et... je pense qu'aussi, le fait de s'engager, le fait de ne serait-ce que de s'engager dans ce type d'épreuve, quelle qu'elle soit, du moment qu'elle soit ultra, va t'apporter entre 12 à 18 mois de bien-être dans ta vie personnelle. Parce que vas t'entraîner, tu vas te sentir bien, tu vas bien t'alimenter, donc ça va avoir un impact sur ta vie. Tu vas te sentir bien physiquement pendant au moins 18 mois. Voilà. Parce que tout ce qui gravite autour de l'épreuve.
Ouais. Moi, c'est un peu ce que j'ai l'habitude de dire, hein, parce que dans la vraie vie, entre guillemets, je suis kiné, donc j'accompagne des coureurs à pied, mais en fait, je leur dis, mais peu importe l'épreuve, en fait, c'est le processus que vous mettez en place
Exactement.
qui est beaucoup plus favorable à une santé générale que, oui, clairement, faire le Tour des Géants ou faire. Je suis pas sûr que d'un point de vue santé, ce soit l'idéal. Par contre, le process qu'on met en place pour essayer d'être performant sur l'épreuve. Ça, c'est ultra bankable et c'est ça qu'il faut jouer. Alors après, peut-être, en fait, l'idée faudrait faire que des prépas sans les courses.
Et peut-être un concept.
alors Arnaud, écoute, on va aborder un dernier point et puis on va te laisser retourner à tes occupations. Derrière toi, en fait, enfin, aujourd'hui on est en vidéo et puis bon, bien sûr on sera en podcast, mais derrière toi, on voit un très beau décor et il faut savoir que nous sommes dans ton établissement Grimpeur Cycliste House à Lyon. Et d'ailleurs, c'est
C'est ça.
dommage parce que je crois que pour la RAF, on passe plus devant alors.
Non, effectivement.
Alors, est-ce que tu peux nous
Effectivement,
présenter un petit
voilà.
peu ton concept? Parce
Ben,
que
c'est
c'est
un
un
concept qui
concept.
est né.
Mais aussi, c'est un concept. Voilà, c'est un concept.
Ouais, c'est un concept qui est né de cinq passionnés, voilà, lyonnais. Voilà, autour du vélo. Hein, le but, c'est d'animer une communauté cycliste autour du vélo, autour d'un restaurant. On va dire que l'axe principal, c'est le restaurant. Puis autour, il y a tout un tas de services, du textile, de l'accessoire. Et on a une salle connectée avec quatre vélos connectés. Après, les clients viennent et se connectent sur différentes applications ou l'application de leur choix. On fait des rides, on organise des rides mercredi et dimanche. Donc, on fait des expériences également, des Lyon-Mont-Ventoux, des Lyon-Alpes d'Huez, deux, 3 jours de gravel dans le Tabor ou autour du Mont-Blanc. Écoute, on a ouvert le 2 septembre. On a dû fermer le 24 octobre pour des raisons de Covid. Et là, on a rouvert il y a peu. Donc, oui, c'est beaucoup d'investissements, mais tous les cinq, on croit très, très fort au projet. Et puis, ben, vous êtes les bienvenus. Si vous passez dans la région, n'hésitez pas à vous arrêter chez nous. Hein.
C'est fort probable. C'est fort
Ça
probable.
va
Mais
de
tu sais
soi.
que n'importe quel concept, on n'a jamais tort par la façon d'avoir raison trop tôt. Donc, des fois, faut. Et les concepts, en fait, l'important c'est de durer. Et parfois, même si les caps sont compliqués à tenir, et ben, quand tu sais que ton
Exactement.
cap est le bon, faut tenir. Ouais.
Exactement. Donc
En tout
voilà, on
cas,
s'est
Arnaud.
inspiré de ce qui se faisait à l'étranger,
Ouais, clairement.
sans faire du copier-coller, mais on s'est inspiré de ce qui se faisait, puis on y a mis nos touches personnelles, puisque dans les cinq associés, on a tous des compétences bien différentes, et c'est ce qui fait que ça peut marcher à cinq, en fait, hein, c'est qu'on a tous justement des compétences différentes. Ouais.
Clairement.
En tout cas, Arnaud, en plus cette casquette, bon, tu fais des podcasts, l'Ultra Talk
Ouais.
by Arnaud Manzanini,
C'est
t'invites
ça.
voilà, des ultra sportifs, des sportifs de l'extrême, même des personnes qui pilotent des avions. Enfin voilà, c'est très complet. En tout cas, Arnaud, nous, on souhaitait te remercier d'avoir
Merci à vous.
accepté
Merci à vous.
d'intégrer notre podcast et d'animer cette émission. On est très content d'avoir pu échanger avec toi. En fait, l'ultra, c'est hyper intéressant, quoi. Moi, je m'étais dit, je vous
Non, non,
jure,
c'est pas,
il
non,
y
c'est
a
pas hyper
8 ans.
intéressant. C'est ultra intéressant.
Il m'enlève les mots de la bouche.
Et avec l'art blanchet, vous êtes assez poteau au niveau humour. Hein. Non, mais moi, il y a 8 ans, quand j'étais pro, je m'étais dit, jamais je ferai ça. Jamais on me verra avec des sacoches sur un vélo. Et aujourd'hui, j'ai des sacoches. En fait, je prends énormément de plaisir. Et donc, et c'est finalement grâce à toi, c'est vrai, grâce à toi, grâce à Thomas, bien sûr, en premier lieu, mais où je me suis dit, tiens, je vais essayer ça. Donc, bah, moi, j'invite tous nos auditeurs et spectateurs, bah, voilà, à faire comme Thomas, comme Arnaud, à découvrir des distances un peu différentes. Et franchement, c'est génial. Alors, Arnaud, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, nous, du coup, pour cette fin d'année?
Bah, c'est que tout se passe bien sur la RAF. Hein, voilà, c'est que tous les participants terminent leur aventure en bonne santé. Voilà, qu'on n'ait pas d'incident sur l'épreuve. Et si on n'a pas d'incident sur l'épreuve, ça sera forcément une épreuve réussie. Voilà, tout simplement.
Est-ce que est-ce qu'un jour on peut réaliser une épreuve ultra distance cycling et ultra distance course à pied main dans la main, ou c'est impossible à faire
Non,
ça?
mais ça, il y a des idées là. Ça, y a. T'inquiète,
Ouais, il y a peut-être.
j'ai des trucs longs comme le bras. Les idées,
Et puis après,
c'est pas ce qui manque.
tu rajoutes un swimrun derrière. Ça,
Allez,
c'est un
c'est
sacré
parti.
truc.
On monte et on rentre en nageant. Allez.
Voilà. Bon, en
Bon,
tout cas,
merci en tout
merci
cas.
beaucoup Arnaud. Et
Merci
puis
à vous.
à très bientôt et bonne
Merci à
préparation pour
vous.
la RAF.
Merci
Merci.
à vous. À très bientôt.
Salut
Bye.
Arnaud,
À très
merci.
vite.
Ciao.
Au revoir.
Bye.
Bon, ben, mon Tom-Tom, voilà, on est encore en ligne, donc raccroche pas tout de suite. Mais bon,
Ah,
allez,
trop tard, trop tard. J'étais parti moi. Non, non, super intéressant, super Arnaud. Bah voilà. Donc Arnaud, bah, finalement, ça va être quand même un peu ton bourreau de fin juillet quand même, parce que même si
Globalement,
là,
oui.
ouais, même si globalement, effectivement, c'est de l'ultra. J'invite moi tous les auditeurs à bien rester en ligne, surtout sur la chaîne des BPO, parce qu'il y aura certainement des vidéos assez sympas à partir du 26-27 juillet. Ça pourra vraiment être sympa comme tout.
Est-ce que tu penses que je vais refaire comme une fois quand un monsieur t'avait serré légèrement en voiture Bon, bref, quoi qu'il vienne, des moments compliqués vont arriver, mais bon, c'est pas grave. En tout cas, moi, je suis super content d'avoir eu Arnaud Casse, parce que l'ultra cycling, c'est sûr, prend quand même un essor assez conséquent et tend à faire un petit peu comme l'ultra running, dont tu étais, j'ai envie de dire, précurseur en France. Il y a quand même vachement de similitudes entre son discours et ce que toi, tu as pu vivre.
Ouais, mais en fait, je pense que c'est le discours de peu importe que ce qu'on disait avec Arnaud, hein, peu importe que ce soit du vélo, de la course à pied, du patin à roulette. Je dirais qu'à un moment donné, peu importe, c'est l'esprit qui doit transpirer sur, on va dire, sur l'ultra. Et l'ultra, bah, je pense que c'est quand même des gens à part. Des gens à part parce que, alors peut-être qu'on veut tous se prouver des choses, hein, à soi, à quelqu'un d'autre, avec des motivations diverses et variées, intrinsèques et extrinsèques. Mais je pense qu'on en retire toujours. Ce que disait sur ultra, passer une ligne d'arrivée, quoi qu'il se passe, quoi qu'il se soit passé, que ben en fait vous en retirez toujours du positif. Et ça, je pense que ça va vraiment être globalement ce qu'il faut se dire. Je démarre, mon but c'est d'arriver. Il va y avoir, ça va être un long moment de vie, des moments faciles, des moments moins faciles, mais faut savoir que une fois l'arrivée passée, bah oui, je retirerai toujours quelque chose de bon pour ma vie de tous les jours.
Est-ce que toi, ton premier ultra, une fois que tu as passé de la ligne d'arrivée, après, on va dire dans le mois qui a suivi, est-ce que tu as changé des choses dans ta façon de fonctionner ou ça t'a pas apporté grand-chose à ce niveau-là?
En fait, typiquement, Arnaud, tu vois, il est passé directement dans le mode ultra. C'est-à-dire que je fais du vélo et bing, je me fais dans l'ultra et je fais tout de suite un truc extrêmement long, extrêmement…
plus de 4500 bornes. Quand tu n'as jamais fait plus de 200 bornes en une journée, ça… Oui.
C'est très compliqué. Après, moi, j'ai eu un process un peu différent puisque j'ai augmenté progressivement. Et après, effectivement, à un moment donné, j'ai eu l'impression d'avoir fait un petit peu le tour du propriétaire dans mes compétences autour de 80-50 miles. Et après, j'ai effectivement voulu basculer sur ultra parce que à un moment donné, on se cherche, on veut sortir de sa zone de confort. Et on en retire, ce que je disais, quelque chose à l'arrivée. Et dans ma façon de voir la discipline, oui, j'ai pris du recul, j'ai fait des choses différemment, j'ai accordé de l'importance à certaines choses finalement que je tout du moins qui étaient moins impactantes dans des distances inférieures. Donc clairement, on est différent quand on a franchi une première ligne d'ultra, surtout quand ça a été compliqué et quand on a mis des choses en place qui nous ont fait poser des questions et qui nous ont fait sortir de cette zone de confort qu'on maîtrisait ou moins, mais l'intérêt de l'ultra, c'est justement de se découvrir. Je dirais qu'en ultra, et j'aime bien le répéter, mais je dirais qu'on ne dépasse pas ses limites, mais on les découvre.
Oui, bien vu. Ça, tu vois, je ne sais plus quoi dire après cette vidéo. je suis tellement bouche bée. Non, mais c'est hyper intéressant. Et comme je disais, moi, il y a 8 ans, jamais j'aurais cru m'intéresser à ce type de discipline. Et en fin de compte, je découvre des choses et c'est pas la compète. Et justement, c'est ça qui est génial, c'est qu'il y a une telle introspection sur soi-même que par contre, les émotions sont décuplées. Hein. Charade, moi, la semaine dernière, j'ai pleuré comme une madeleine après 12 heures.
Je pense qu'il y a peut-être 2-3 vidéos qui tournent actuellement. C'était tellement beau, c'était tellement joli.
Merci pour ta bienveillance, mon top.
Tu sais que tu pourras toujours compter sur moi.
T'inquiète pas. On a toujours un copain qui peut te faire un croc en jambe. Je parle de croc en jambe parce que c'est comme ça que Thomas parle de croche-patte, parce que dans les années 60, c'est comme ça qu'on parlait. Mais c'est important de souligner. Bon, en tout cas, Tom, merci pour ce podcast.
Merci,
un grand merci
petit
à Arnaud Manzanini. On lui souhaite bien sûr une très belle organisation, mais ça, on n'est pas inquiet parce qu'on voit qu'il a quand même une sacrée expérience.
Ça fait carré.
Ouais, ça fait très pro. On est très super. Enfin voilà, on n'a pas pu parler de tout ce qu'on a énoncé sur notre. Il faudrait faire une émission de 24 heures.
On a été pas mal.
En tout cas, les amis, que ça soit en vidéo et en audio, dans le podcast, vous avez pris autant de plaisir que nous à partager ce moment avec deux champions de l'ultra, à savoir Arnaud Manzanini et Thomas du côté running, Et puis, on se donne rendez-vous pour un prochain DBPO, mais là, sans invité, du coup. Hein, voilà.
Hein. Eh ben non, on potasse, on potasse.
On potasse, hein. Mais si, enfin, moi, j'ai des petites idées. On a, bien sûr, on tient à féliciter notre Auvergnat, Rémi Cavagna, nouveau champion de France. Et c'est la grande classe, hein. Ouais. Champion de France chrono, champion de France course en ligne.
Ça commence à poser.
Ça cause, hein, l'Auvergnat, voilà. Donc, écoutez, on va essayer de le solliciter gentiment, parce que Rémi aussi, c'est un homme du Sancy, Rémi. C'est un homme du Sancy.
Un homme du Sancy, oui, c'est vrai. Ouais.
Bon, en tout cas, merci à tous pour votre fidélité. À très bientôt, mon Tom Tom.
Bisous, mon petit.